La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Oui, vous savez que nous sommes toujours en dry January, ce mois de sobriété où l'on incite à ne boire aucune goutte d'alcool, notamment quand on prend le volant. Elisabeth, une nouvelle solution pour ce dry January, c'est un gobelet doseur et il s'appelle Just Dose.
Just Dose, ou comment encourager une réduction de la consommation d'alcool, notamment quand on est en soirée, qu'on doit reprendre la route pour rentrer. Vous savez peut-être que 50 000 décès par an sont dus à cette consommation d'alcool. Et au-delà du drame que cela nous évoque, l'alcool a un coût. Il s'élève à 120 milliards d'euros. Donc grâce à ce gobelet gradué que l'on peut voir là peut-être en direct
sur Europe1.fr.
Sur Europe1.fr, les doses en unités d'alcool sont clairement indiquées et on sait enfin ce que l'on boit. Bonjour Karine Buixian-Piqueda.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes d'abord psychologue en alcoolologie et c'est pendant vos consultations que vous avez eu l'idée, il y a 4 ans, de créer ce gobelet doseur.
Oui, c'est ça.
Comment ça s'est passé?
Alors c'était une consultation, un groupe en fait, un groupe destiné à des personnes qui ont une obligation de soins. En fait, parmi les personnes qui consultent en alcoolologie, il y a des personnes qui sont obligées par la justice parce qu'elles ont... été contrôlées ou alors parce qu'elles sont sur la route ou pour des violences conjugales.
Donc
par exemple.
Elles sont obligées de consulter.
Elles sont obligées de consulter. Souvent, c'est des personnes qui ne sont pas forcément très intéressées par la consultation, mais qui attendent des attestations. Et donc, dans le centre où je travaille, on leur propose des séances plutôt d'information et de prévention en groupe. Et donc, c'était il y a une dizaine d'années déjà. Donc, il y avait un monsieur qui était très en colère contre la police, qui disait que ça devait être l'éthylotest de la police qui marchait pas, parce que lui, il avait déjà été contrôlé dans le passé et il avait fait déjà un stage et il avait retenu qu'il pouvait consommer 2 verres d'alcool sans rien risquer, au moins pour le contrôle routier.
2 verres d'alcool, mais on ne connaît pas quelle est la taille du verre.
Et voilà. Et donc
c'est
lui,
là
il avait retenu que c'était 2 verres et donc il était persuadé qu'en fait il avait pas trop bu et que c'était
une injustice.
Et du coup, en fait, ça a bloqué le processus parce que lui, il était bloqué avec sa colère. Et donc, moi, j'étais pas très habituée à faire ce type de séance et ma collègue qui était plus habituée, ce jour-là, lui donne un verre et lui dit, on va imaginer, faites semblant, on va dire que c'est votre verre d'alcool. Qu'est-ce que c'était votre verre d'alcool? C'était du pastis. Et donc, elle lui donne un gobelet
classique,
jetable. Et donc, elle lui dit, montrez-moi là, comment vous versez votre verre à la maison d'habitude. Et donc là, il a versé son verre et on a mesuré combien ça faisait. Et en fait, un verre de pastis, donc une dose standard de pastis, c'est 2,5 centilitres. Et chez lui, ça faisait à peu près 7 centilitres. Donc en gros, 3 verres.
3 verres. Donc en transvasant une quantité d'alcool dans ce gobelet Just Dose, vous dites donc que l'on peut constater que la dose servie, ça correspond souvent à 2 voire 3 fois la quantité prescrite par les recommandations.
Oui. La dose maison est toujours supérieure à la dose bar ou la dose standard. Et du coup, effectivement, ça crée des confusions parce que quand la personne sait, même si elle sait qu'elle peut boire 2 verres, alors en plus, les gens ont tendance à prendre un petit peu de risque et ils comptent sur l'élimination pour dépasser un petit peu la dose. Souvent, la personne n'a pas bu 2 verres, mais 4, voire 6.
Plus.
En fait. Et donc, ce qui explique.
Evelyne, notre coach.
Alors là, je vais vous dire, moi, évidemment, merci, parce que je trouve qu'il y en a vraiment besoin. Moi, j'ai 2 ados qui sont en école de commerce, donc je ne fais pas un dessin. Donc, mon vrai sujet, c'est comment faire rentrer ça dans les soirées, parce que ce n'est pas les alcooliers qui vont vous prendre et logoter, hélas. Ce n'est pas les écoles de commerce qui vont prendre et logoter. Donc, est-ce qu'on ne peut pas en faire un objet obligatoire dans toutes les soirées? Enfin, moi, je veux bien me battre avec vous sur les ministères, etc.
Mais déjà,
je crois que là, il y a un vrai énorme sujet à combattre. Il faut y aller, quoi, parce que c'est dramatique.
Mais il y a des Just Dose personnalisés. Voilà, vous en avez apporté aussi.
Pour l'instant, il y a des grosses sociétés qui commencent à les personnaliser pour leur
salariés.
L'objectif, c'est ça. Voilà, c'est de les personnaliser.
D'ailleurs, la plupart.
Et que ça devienne une obligation, soirée étudiante, d'avoir.
C'est important d'avoir le contrôleur de Just Dose.
On voit bien sur le verre, si vous nous suivez sur Europe1.fr, il y a les doses de pastis ou de rhum, de whisky, de tequila et le degré précisé à côté. Et donc, il y a un petit trait qui correspond à la bonne.
C'est comme un verre doseur quand on fait notre cuisine, sauf qu'au lieu que ce soit la farine, du sucre, là, ce sont la tequila, le whisky, la bière. On sait exactement à quoi ça correspond.
Depuis un an, j'ai changé de fabricant, j'ai un moule particulier. parce que je tenais à ce qu'il y ait vraiment tous les centilitres qui soient gravés au-delà des doses d'alcool, pour que vraiment l'objet rentre dans la cuisine aussi, chez le particulier.
Oui,
et donc qu'on puisse l'utiliser...
Pour une soirée privée aussi.
Aussi alors, pour la soirée privée, mais si on a envie de... Si on est en train de faire la cuisine, on peut l'utiliser aussi... Au-delà de la question de l'alcool, parce qu'on sait comme ça... Et quand il est dans la cuisine, en fait, ça fait passer la prévention
dans le quotidien.
Dans le quotidien.
Il est distribué où aujourd'hui, Just Dose?
Alors, il est distribué que sur Internet, en fait. Donc, j'ai un site Internet qui est bien référencé. Les gens y arrivent
facilement.
Mm-hmm. Quand ils cherchent outils de prévention alcool, ils tombent dessus. Donc, c'est d'abord les spécialistes de la prévention qui commandent. Il y a des particuliers, ça avait commencé par une campagne de financement sur Ulule, donc il y avait des particuliers que ça avait intéressé. Il y a eu quelques émissions.
Combien ça coûte?
Alors, ça dépend. En fait, c'est très variable parce que si on en fabrique, si j'en vends un pour un particulier,
oui.
C'est 9 euros, donc c'est assez cher.
Mais c'est aussi une prise de conscience.
C'est une prise de conscience.
Ça peut aider à sauver des
vies. On est dans une démarche citoyenne et valorisante et responsable.
Il y a des packs pique-nique, il me semble, autour de 20 euros pour 4 gobelets. C'est déjà plus.
Et il y a énormément de couleurs, il y a énormément de logos disponibles.
Il y a 10 couleurs de plastique. Donc plusieurs possibilités de couleurs de personnalisation.
Chacun peut avoir son
ça coûte beaucoup moins cher pour une structure, par exemple une institution qui en achète 2000.
Oui, forcément, plus le nombre est important, ça sera beaucoup moins cher.
Ça peut tomber à 50 centimes, en fait.
Ça s'appelle Just Dose, c'est la solution aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous la présenter sur Europe 1.
Il est midi 57.
Europe 1.
Et le sommet des sneakers se tient ce week-end à Paris, porte de la Villette. Cette basket a remplacé la chaussure de ville à nos pieds. On vous dit tout dans La France Bouge. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h, La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Ici, vous le savez, nous sommes à l'écoute du monde qui change et de la France qui bouge. Et parmi les révolutions que nous observons, regardez autour de vous. Nous avons tous dans nos placards, à nos pieds, des sneakers, ces baskets qui ont remplacé la chaussure de ville, plus confortable, plus moderne, très mode aussi. Elle s'impose dans le paysage désormais, à tel point que c'est toute une filière qui se développe autour d'elle. Bonjour Mathilde Blatry.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice d'UBAC, UBAC, et vous fabriquez-vous des baskets en laine recyclée. Tout est fait en France, hein, je le précise dès le départ. Racontez-moi comment vous est venue l'idée de vous lancer dans cette basket en laine.
Alors, moi, dans ma famille, j'ai des chausseurs, en fait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à errer dans les boutiques où ils vendaient des très belles chaussures. Donc, c'est là que mon amour de la chaussure est né. Je suis aussi issue de la génération basket, j'ai 26 ans, donc j'ai toujours porté des baskets, donc en fait c'est venu naturellement. Ensuite, la laine, c'est une matière aussi que je portais beaucoup, que j'affectionnais, et j'ai eu envie de la détourner en fait sur une sneaker. C'est vrai que c'est étonnant, une basket en laine, on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc,
Et l'idée, elle vous vient parce qu'au départ, vous vous inspirez de tout ce qui se fait dans les pays scandinaves.
Tout à fait, oui. On a eu un concept store en fait où on vendait... des produits scandinaves à l'occasion des fêtes de Noël, des magasins éphémères. On a envie de créer tout un univers autour de ces matières naturelles, des plaids, des pantoufles, des bougies artisanales, toujours dans l'amour aussi d'un produit artisanal bien conçu. Et ensuite, la laine, ça avait plein d'atouts pour nous. La légèreté, le confort, le fait que ce soit antibactérien. Et c'était vraiment une super matière à utiliser dans la chaussure. À l'aide d'un tissage innovant, je pense qu'on est arrivé vraiment à l'adapter pour que cette chaussure résiste à toutes les épreuves de la vie.
Et alors l'idée, c'est en 2015, vous commencez vraiment le projet en 2016. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous faites des tests, vous prototypez?
Exactement, beaucoup de tests sur le tissage, c'était vraiment tout l'enjeu d'avoir un tissage durable qui résiste, comme je vous l'ai dit. Donc on a travaillé avec un tisseur, son père faisait ce métier aussi, un homme passionné vraiment, qui est à 30 km de la filature où on recycle la laine, c'est dans le Tarn. Et après quelques essais, on est arrivé à quelque chose de très résistant, qui peut se laver en machine, qui ne bouloche pas, qui ne se déchire pas. Et on était ravis. Et ensuite, on est allé rencontrer la manufacture à Cholet qui nous a fabriqué ce magnifique modèle qui est
Elle voyage
cette basket. On est en Occitanie, dans le Maine-et-Loire. On est du côté de Saint-Étienne. Vous avez les doublures aussi qui viennent de Lyon. C'était important pour vous justement qu'on soit sur une basket française.
Tout à fait. Pour le local en fait, pour limiter vraiment au maximum notre impact CO2, de rassembler tous les composants d'une basket, dans un rayon très délimité, puis de profiter du savoir-faire français, de l'encourager aussi, de le pérenniser. Travailler avec des gens passionnés, c'est un plaisir aussi en tant qu'entrepreneur de faire ça.
Elisabeth, pour qu'on resitue un petit peu les choses, ça représente quoi aujourd'hui le marché de la basket?
Déjà, les ventes de basket, elles n'ont fait qu'augmenter ces dernières années. Pour vous donner une idée, elles ont progressé de 5% par an. Rien qu'entre 2013 et 2017, et elle pesait jusqu'à 47% du marché des chaussures, un marché estimé à 9 milliards d'euros par la Fédération française de la chaussure. Donc vous le voyez, la basket a réussi au fil du temps à se populariser et à toucher une clientèle de plus en plus large. Vous avez peut-être remarqué des cadres avec des hommes avec un costume
et des baskets aux pieds.
La paire de baskets ou de sneakers, appelez-les comme vous voulez, au pied. Et on a vu des tonnes de marques. Tous les milieux de la mode ont dû s'adapter à leurs arrivées. C'était pas prévu au début que toutes les grandes marques, même les marques de luxe, comme les marques premier prix, incluent un modèle ou plusieurs modèles de baskets dans leur collection. Et avec des prix qui peuvent atteindre des milliers d'euros, ça représente un quart du total donc des ventes de chaussures.
Que dit notre coach Evelyne Platnik-Cohen?
Moi, je dis qu'il faut être jeune pour aller dans la chaussure parce que c'est quand même un marché super compliqué. On a vu tout à l'heure l'écharpe. À l'écharpe, il n'y a pas autant de complexité. Non, enfin, c'est très complexe. Maintenant, c'est vrai que je suis allée voir ce que vous faites. Elles donnent envie, vos baskets. C'est-à-dire qu'on a envie de les mettre au pied. On a l'impression, entre la basket, presque la chausson, en termes de ressenti. On a l'impression que ça va être tout douillet, tout bien, etc. Donc, vous avez fait un joli produit. Donc, bravo déjà, parce que ce n'est pas évident. On a envie. Après, le vrai sujet, c'est comment vous allez distribuer. Est-ce que vous restez très internet? Est-ce qu'on va vous trouver dans des boutiques? Dites-nous tout.
Mathilde Blétry.
Alors, pour le moment, nous restons en distribution exclusive sur notre site en ligne. Voilà.
C'est un choix pour le moment, mais vous envisagez par la suite, quand vous aurez par exemple la nouvelle collection qui arrive en septembre 2020, là peut-être vous commencerez à penser autrement?
Exactement, oui. Peut-être il n'est pas impossible qu'on nous trouve dans quelques boutiques sélectionnées avec beaucoup de critères, des personnes qui nous ressemblent, qui ont aussi les mêmes valeurs, des co-responsabilités et tout ça. Mais en attendant, on compte sur des stratégies d'influence marketing uniquement en ligne pour nous développer. C'est vrai que la chaussure, c'est compliqué, comme vous l'avez dit, mais nous, c'est vrai que c'est un modèle mixte. Donc déjà, ça nous permet de mieux appréhender toutes les problématiques de stock liées à la chaussure.
Vous êtes en train de travailler, je le disais, sur les nouveaux modèles qui sont prévus pour septembre 2020. Vous êtes dans la vague éco-responsable. Qu'est-ce que vous avez ajouté à ce nouveau modèle? Vous avez beaucoup travaillé finalement autour de la recherche pour arriver à ce que le modèle soit mixte, qu'il soit plus confortable. Comment est-ce que vous allez apporter en plus à la nouvelle version?
Eh bien, déjà, il y aura une autre forme, donc ce ne sera pas du tout le même modèle. Et on est déjà en thèse sur des tissages à base de lin, de chanvre. C'est des matières aussi qui poussent localement et qui nous intéressent beaucoup.
Voilà. Donc, aller chercher d'autres matières que la laine pour essayer d'élargir la gamme.
Exactement.
C'est un prix unique, 110 euros.
Oui.
C'est le prix de la basket en laine. Est-ce que ce sera la même chose pour les modèles qui vont sortir?
Ce sera dans une fourchette, oui, comprise entre 110 et 130 euros.
Elisabeth, qui a été le premier à flairer le marché de la basket?
À l'époque, le marché de la chaussure n'était pas dominé, contrairement à aujourd'hui, par des groupes mondiaux. À l'époque, c'était de la fabrication artisanale et on trouvait des baskets par-ci, par-là, chez des artisans qui les faisaient. Ensuite, il y a eu des grands groupes américains qui ont émergé. On les connaît, c'est Nike, c'est Converse d'abord et Keds. Je ne sais pas si vous connaissez, vous vous souvenez, Keds, KEDS. Et entre 1915 et 1920, c'est là où on voit les premières chaussures en toile montantes avec une semelle en caoutchouc, et c'était seulement pour jouer au basket. Et puis ensuite, ces chaussures, elles ont commencé à se démocratiser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film West Side Story, on les voit tous avec une paire de baskets aux pieds, une basket montante, des Converse, et ce sont donc les premières baskets du quotidien.
Comme quoi, ça remonte à quelques années en arrière déjà. On reste ensemble et on continue à parler de la basket ou de la sneakers. C'est comme vous voulez sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et si on vous faisait découvrir le supermarché en ligne de la sneaker ? Il existe, il est français, il s'appelle The Soul House. A tout de suite.
On parle de chaussures cet après-midi dans La France Bouge, mais pas n'importe lesquelles. On parle de baskets, de sneakers qui sont en plein boom. Dites-nous si vous aussi vous en êtes adepte en nous envoyant vos messages via Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921 Raphaël.
Et oui, on en parle à l'occasion du Sneakers Summit. Ce sera le 25 et le 26 janvier, Porte de la Villette à Paris. Et c'est vrai qu'on a tous plus ou moins une paire de baskets fétiches qu'on aime, qui nous fait découvrir le confort de la sneaker. C'est aussi votre cas, Maxime Alaroni, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Avec vos premiers salaires, je crois que vous avez acheté justement des sneakers. Pourquoi cette passion ?
C'est venu comme ça. C'est venu parce que la sneaker, c'est le basket avant tout, c'est le sport. Je suis un grand fan de sport, donc voilà, mes premiers achats sont passés là-dedans.
Vos premiers achats passent là-dedans, bien avant de cofonder The Soul House, dont on va parler dans un instant. Une aventure qui démarre avec Jean-Baptiste, qui est votre associé.
Exactement.
Et qui lui aussi aime les baskets. Vous étiez partis dans deux directions différentes et finalement, vous vous êtes rejoints avec la sneakers.
Ouais, on s'est retrouvés tous les deux, on avait toujours un lien. Lui était entrepreneur, moi je travaillais dans les médias. Et on avait un lien qui nous unissait, c'était la sneakers. Et le jour où lui avait cette idée en tête, il est venu m'en parler, on s'est dit, allez, on y va, on lance ça.
On lance ça. Ça, en l'occurrence, c'est, je disais tout à l'heure, supermarché de la basket, mais presque, c'est une plateforme,
où
on peut retrouver tous les types de baskets, d'occasion, portées, un peu portées, beaucoup portées.
On aime bien utiliser le mot « la peine portée ». C'est-à-dire que c'est des gens qui souhaitent porter leur paire, faire quelques photos et les revendre derrière. On va être sur des sneakers qui vont être des sneakers très rares et limités. Alors, c'est des Nike, des Adidas, mais aujourd'hui, la stratégie des marques, c'est de faire des collections limitées, des collaborations. Et c'est là où les paires prennent de la valeur.
C'est la stratégie de la rareté.
Ah, exactement. Mmh. Et ils sont persuadés comme ça de pouvoir vendre leurs paires. Et derrière, les gens veulent les porter, mais ils veulent quand même, tirer un petit bénéfice de ces paires-là. Donc pour ça, ils les vendent sur The Soul House.
Dites-moi, comment est-ce que vous vous apercevez qu'il y a peut-être un concept à développer
par rapport à The Soul
House ? À ce
moment-là,
oui, quand
on
vous
regarde
créez
ça,
The Soul House.
On regarde, on sait que les Américains sont très matures par rapport à nous. Et on sent que le marché commence à prendre, que les collaborations sont de plus en plus difficiles à obtenir. On se dit il y a quelque chose à faire quand même là. Il y a des gens qui veulent acheter et vendre en toute sécurité, étant donné qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Donc on se dit il faut qu'on lance The Soul House et répondre à cette demande de l'occasion.
Donc vous créez la société, on est en 2018.
Exactement.
Vous lancez le site dans la foulée. Ça marche tout de suite ?
Ça prend du temps, on a nos premiers clients, mais en fait on se retrouve avec un problème de prix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spéculation. Une paire, elle peut se revendre 2 fois, 5 fois, 10 fois son prix. Et nous, on ne peut pas forcer nos clients à vendre leur paire. Donc on se dit, il faut qu'on trouve une solution pour faire face à ça. Et parce qu'on avait des écarts de prix sur la même paire et le même modèle qui allait de 50 à 150 euros.
Donc, vous faites comment pour trouver ce modèle ?
On y a réfléchi, on a lancé une cote, la cote officielle de la sneakers, qui permet de donner le prix de sa paire, peu importe son état, peu importe sa taille, tous les jours, tous les matins. C'est un algorithme qui va vous fournir le prix de sa paire.
C'est la bourse de la sneakers.
Exactement. Alors, et surtout qu'on a différents états, très bon état, bon état, état correct de votre paire. Et nous, on va vous fournir, non pas un prix fixe, mais une fourchette de prix pour vous permettre de vendre ou acheter au meilleur prix.
Aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs ?
Aujourd'hui, on doit être à plus de 3000 utilisateurs inscrits. En termes de visites par mois, on a plus de 10 000 visites par mois, 10 000 utilisateurs. Donc voilà, ça c'est bien parti. On a à peu près 4000 estimations sur le site.
4000 paires ?
Non, c'est 4000 estimations sur l'Argus. Alors, on est parti du système de l'Argus, mais ça ne parle pas au moins de 20 ans, ce mot-là. Donc, on a préféré utiliser le mot cote. Et on a 4000 utilisations. Et sur le site, en ce moment, il doit y avoir à peu près 3000 paires.
Que dit notre coach, Evelyne ?
Moi, je m'amuse parce que vous dites, oui, ça a quand même pris du temps, parce qu'en 2018, enfin, on est juste début 2020, donc on se dit que, le temps, mais le temps pour un entrepreneur, ouais. je sais, chaque jour, chaque heure. Bon, enfin, si vous êtes quand même allé hyper rapidement, je pense que là, vous avez flairé le bon coup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres concurrents à côté de vous, mais vous êtes sur un super bon coup. Après, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est combien il y a eu de ventes réelles de paires, parce que vous rémunérez sur quoi, en définitive ?
On se rémunère sur les commissions. Là, on est en plein bilan. 2018-2019, donc c'est des statistiques pour le moment qui sont que j'ai pas encore, mais on se rémunère sur des commissions qu'on prend sur l'acheteur et le vendeur, donc c'est à hauteur de 7% sur acheteur et vendeur pour les protéger, pour faire face à tout problème qu'on peut avoir, étant donné que les paires ne passent pas par nos bureaux, donc c'est de particulier à particulier les ventes, donc voilà, on protège par rapport à ça.
Donc vous encadrez les prix grâce à cet algorithme.
On n'encadre pas en conseil. On ne peut pas forcer quelqu'un à vendre à ce prix-là. Ce n'est pas possible sur une marketplace de particulier. Mais par contre, on conseille et on se positionne comme expert à leur service pour leur permettre de vendre plus rapidement. Et on s'en rend compte rapidement lorsqu'on indique son prix de vente. Nous, on vous met un petit message en dessous où on vous dit « attention, le prix est trop haut, attention, le prix est trop bas ».
Vous disiez, il y a beaucoup de sneakers de marques étrangères, notamment américaines. Justement, Elisabeth, est-ce qu'en France, on a beaucoup de marques françaises de sneakers?
Il y en a tous les jours un petit peu plus, mais depuis ces 5 dernières années, 150 marques ont débarqué sur le marché, toujours d'après la Fédération française de la chaussure. Et en seulement un an, les ventes de ces sneakers ont progressé de 5,5 millions d'euros.
Et on est accro, nous, Français, à la sneakers.
Complètement. Ouais. Mais on adore les sneakers. Plus d'une paire neuve vendue sur deux, alors d'occasion, ça doit être beaucoup plus, est une paire de baskets. Donc, succès énorme en France, succès mondial. Cette basket, elle illustre cette forme de globalisation culturelle de la basket. Dans n'importe quel pays, vous avez des personnes qui portent des baskets.
Comment est-ce que vous envisagez la suite, justement, aujourd'hui, Maxime, avec ces baskets d'occasion? On voit que vous avez un marché qui est de plus en plus important, puisqu'il y a de plus en plus de marques qui se créent. Ça veut dire que, pour vous, il va y avoir de plus en plus d'occasions.
Exactement. Alors la suite pour nous, c'est s'adresser vraiment aux sneakers addicts pour commencer. On veut aussi s'adresser au grand public, ouvrir ce marché au grand public, communiquer auprès du grand public avec le développement d'une application qui devrait sortir dans les prochains jours, qui doit sortir dans les prochains jours même. Et voilà, et renforcer nos équipes, nous développer. Et il y a un gros travail sur le marketing à faire en allant s'adresser à notre cible qui est vraiment curieuse, intéressée, qui a besoin de contenu. Il y a du contenu qu'on peut faire avec la sneaker. C'est vraiment, je dis souvent, on vend pas des vis, on vend des sneakers. Donc on a un beau produit qu'on peut optimiser et mettre en avant.
Ça signifie que j'ai peut-être, moi, dans mon placard, une paire qui vaudrait le coup d'être mise sur le marché et j'ignore son prix, j'ignore tout.
La paire la plus chère qui a été vendue, je crois que c'est une paire des années 1960. Donc, c'était une Nike et j'ai plus le modèle en tête. J'ai oublié de regarder avant d'arriver. Mais voilà, il y a des paires qui sont là depuis les années 90, les Agassi, plein de paires comme ça que vous avez peut-être dans votre vestiaire. Venez voir sur la cote officielle et on vous dira sa valeur en tout cas.
Ça intéresse Céline.
Oui, ça intéresse Céline. On va faire les placards en rentrant. On reste ensemble et on continue à parler sneakers aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Et si on les bichonnait, nos sneakers, justement, nettoyage, restauration aujourd'hui, c'est un vrai mouvement qui se crée autour de nos baskets fétiches. À tout de suite.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France Bouge. Et à l'occasion du Sneaker Summit qui va avoir lieu porte de la Villette ce week-end, on parle du boom des sneakers dans La France Bouge, des baskets. On en parle avec vos invités, Raphaël. Et avec vous, est-ce que vous portez des baskets? En êtes-vous adepte? Dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors vous pouvez nous appeler au 3921.
C'est vrai qu'aujourd'hui, Céline, on est aussi dans l'ère de la personnalisation. Et ça vaut également pour les sneakers. Chacun a son goût, chacun aime y mettre sa petite touche personnelle. Bonjour Romain Louisy.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Sneakers and Chill. Tout commence en 2016-2017, après une sortie en boîte de nuit, je crois.
Exactement, une sortie en boîte de nuit qui a donné lieu à une tache sur une paire de baskets que
celle
j'aimais
qu'il ne fallait pas tacher. Les Air Max, c'est ça, en l'occurrence, pour ne pas les citer.
Exactement. Du coup, retour à la maison, analyse de la tache. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il existe un magasin où quelqu'un peut entretenir, nettoyer ou réparer
un pressing.
Cette paire de baskets? Exactement.
Et donc, il n'y en a pas.
Et donc, il n'y en a pas. On a fait le tour des cordonniers, des pressings qui n'étaient pas aptes à récupérer ce genre de produits. De là, c'est parti. On apprend à nettoyer, à réparer et par la suite à customiser ces baskets.
Donc, ça vient d'une histoire personnelle. Exactement. Qui vous donne l'idée de développer une filière. Comment ça commence? Vous trouvez comment les produits pour réparer? Parce que vous avez fait référence au cordonnier. C'est presque un nouveau métier.
Exactement. Un des associés, Nathan, venait du milieu de la chaussure et de la patine. Donc, il avait certaines connaissances de l'entretien et de la fabrication des chaussures. On a adapté ces connaissances-là sur la basket. Avec un certain nombre de tests, on a aussi analysé tous les produits qu'il y avait sur le marché pour nettoyer ces baskets. Et on s'est lancé dans une période de, d'apprentissage, entre guillemets, sur le tas, pour redonner vie à ces baskets.
Vous partez avec un financement au départ qui est un financement familial. Chacun quitte son boulot.
Exactement.
Hein, et se lance dans l'aventure. C'était quand même osé.
Oui. On sentait qu'il y avait un marché qui était important. On est parti du constat que tout le monde, hommes, femmes, entre 15 et 45 ans, ont 2-3 paires de baskets à la maison pour lesquelles il y a une valeur soit affective, soit financière. Et que ça ne servait pas forcément à grand-chose d'en racheter et juste de réparer celle que nous avions déjà.
Alors, il y a la partie nettoyage, pressing, c'est peut-être le moins amusant. Il y a aussi la partie customisation.
Exactement.
Ça veut dire que chacun, aujourd'hui, a envie de mettre une petite touche personnelle sur sa basket pour la rendre unique.
Exactement. On part sur des modèles qui sont communs. Tout le monde ça appartient à tel ou tel type de basket. Et ensuite, on a envie de se différencier sur cette base commune. Donc d'apporter des dessins, d'apporter des initiales, de modifier la nature même de la basket.
Comment vous avez eu cette idée de customiser ?
On a eu des demandes, on avait simplement envie de porter la même paire, mais pas réellement la même paire. Donc d'avoir un élément de différenciation important.
Il y a des artistes qui travaillent avec vous.
Exactement.
Sur cette customisation ?
Oui, on a employé une dizaine d'artistes issus d'écoles d'art. On leur a appris la manière d'utiliser la basket et en tout cas de la customiser. Et ensuite, on laisse parler leur talent et leur créativité en fonction des clients.
Alors, tout commence à Paris, mais très vite, vous vous êtes développé. Aujourd'hui, vous avez une douzaine de salariés, vous travaillez avec une quinzaine d'artistes. Et vous avez combien de boutiques Sneakers & Jeans?
Nous avons 3 boutiques. Nous avons Paris dans le deuxième, Lyon dans le deuxième aussi, et Aix-en-Provence. Et nous avons des pop-up réguliers au sein des galeries Lafayette d'Haussmann.
C'est un marché qui est en perpétuel mouvement, le marché de la sneakers. Vous constatez des tendances, comment ça se passe ?
On constate des tendances d'achat. On a des cibles qui sont extrêmement larges et difficiles à définir. Donc on va de certains clients qui n'ont simplement pas la possibilité de racheter de nouvelles baskets à des footballeurs qui souhaitent customiser des baskets qui sont déjà extrêmement chères de base.
Ça vous est arrivé ? On vous a demandé quoi par exemple ?
On nous a demandé des grosses pièces de maroquinerie de luxe française à customiser. Donc des chaussures, on nous a demandé la tête de Zidane sur une paire de chaussures, on nous a demandé pas mal.
Des trucs assez dingues, ouais. Et vous arrivez à répondre à toutes les demandes ?
Oui.
Oui. Evelyne ?
Oui, alors c'est quand même un produit luxe. Hein. C'est-à-dire que oui, vous dites certains n'ont pas les moyens de se racheter des baskets. Ouais. Bon, à mon avis, vous êtes quand même un service plus. Alors moi, j'avais envie de dire un peu gosse de riche, hein, quelque part. Mais c'est très bien hein, et c'est génial. Et c'est vrai, quand je suis allée sur le site, alors j'ai plus regardé la partie customisation que la partie rénovation parce que c'est super joli. Après, je me suis posé une question assez basique sur le prix parce que vous avez un prix, je crois, autour de 195 euros. Et je me posais la question...
Inclus.
Voilà, si la chaussure était inclue ou pas, voilà, c'est un certain tarif. Mais d'un autre côté, on sait que chacun veut se différencier, il y a une individuation. Donc, je pense que vous surfez sur une super vague. Et donc, bravo. Et c'est vraiment très, très original. Il y a de très jolis dessins, c'est très original.
Côté nettoyage, en revanche, ça reste très abordable. Hein. Quand on tient particulièrement une paire, c'est 25 euros, c'est ça le nettoyage ?
C'est entre 25 et 45 euros. Mais la cible web, avec donc de la vente de paires customisées et de la cible magasin sur la partie nettoyage et réparation, est totalement différente.
Vous avez deux publics très différents.
Exactement. Donc, effectivement, sur la partie customisation, on s'adresse à une clientèle plutôt CSP+. Sur la partie nettoyage et réparation, on est entre 20 et 40% de la valeur de la chaussure. Donc, pour ne pas citer une paire blanche à air vert très connue, une manière de la rénover entièrement pour qu'elle soit métable et quasi neuve, en tout cas en termes de visuel, représente 45% de la valeur d'achat.
Et vous mettez combien de temps pour la remettre en état, cette paire ? Ça dépend de son état de départ.
Exactement, ça va entre une demi-heure et une heure et demie. Mais c'est fait à la main, il n'y a pas de machine, donc c'est un temps qui est précieux.
Elisabeth, Comment est-ce qu'on explique un tel succès aujourd'hui de la sneakers?
Bah, déjà, il y a eu un changement par rapport à notre lien au travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, les baskets, les sneakers sont acceptés dans le monde du travail. On n'est plus dans les uniformes. Et deuxième raison, la mode s'inspire énormément des codes du sport. Donc on a les codes du sport d'un côté, on a le monde du travail où il n'y a plus d'uniforme type. Et il y a aussi le côté confort, le côté pratique, qui sont devenus des éléments essentiels quand on choisit des chaussures. Et donc tout ça, eh bien, ça profite aux baskets, aux sneakers, et les marques surfent là-dessus.
Vous parliez des sportifs, justement. Vous avez trouvé des baskets françaises pour les sportifs?
Oui, alors les baskets françaises pour les sportifs, y en a qui sont les Vets, V-E-T-S, vous les connaissez. C'est une jeune marque de chaussures de running française. Elle est située en Vendée. 100% made in France, tout est assemblé près de Cholet dans le Maine-et-Loire, et au niveau de l'impact sur l'environnement, ils sont aussi au taquet, parce que le nylon de leurs chaussures est intégralement fabriqué à partir de bouteilles recyclées.
On sent qu'il y a aussi cet esprit-là qui est très présent dans ce marché de la sneakers, et je vous propose qu'on en parle dans un instant, tous ensemble sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
Et on vous attend au 3921 Twitter, hashtag Europe 1. Venez nous dire si vous portez des sneakers, si vous aimez les sneakers, si vous avez changé votre façon de vous chausser. C'est la France qui bouge avec vous. À tout de suite.
Cet après-midi dans La France bouge, on parle du boom des sneakers, des baskets, et on en parle, Raphaël, avec vos invités.
Oui, nous sommes avec Mathilde Blettry, cofondatrice du BAC, basket en laine recyclée Made in France, Maxime El Haroni, cofondateur de The Soul House, marketplace de sneakers qui a développé notamment la cote officielle de la sneakers pour notamment essayer d'encadrer un petit peu les prix. Et puis Romain Louisi, cofondateur de Sneakers and Chill, qui propose le nettoyage, la restauration et la customisation de vos sneakers. Notre coach aujourd'hui, c'est Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy et qui siège au comité de direction de Croissance Plus. Évidemment, à mes côtés, Elisabeth Assayagela. Tiens, Elisabeth, vous avez trouvé des baskets de ville françaises. Il y en a de plus en plus.
Alors, je vous en citais une notamment qui s'appelle Carus, C-A-R-2-U-S, entreprise installée à Bourg-Achard en région Normandie. Eux, il leur a fallu plus de 2 ans de travail. Ils ont travaillé avec une agence spécialisée en éco-conception et une coopérative pour arriver à mettre sur le marché une paire. Ils en ont vendu un peu moins de 1000 paires en un an. Il y a un prototype qui est en cours d'élaboration avec une basket montante, écoutez bien, en jean recyclé 100% normande. Donc ça, j'ai hâte de voir ça.
Ouais, tout un programme. Justement, Mathilde Blettry, on dit 100% français. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à fabriquer toutes les pièces en France? Est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce qu'on est obligé, pour certains savoir-faire, de partir ailleurs en Europe, notamment au Portugal?
Eh oui, tout à fait. Ouais. Par exemple, nous, sur notre modèle, on cherchait la légèreté. Et donc, on utilise de l'EVA, c'est la matière la plus utilisée pour les baskets de running. Et malheureusement, on n'a pas de fabricant de ce genre de semelle en France. On va facilement trouver du caoutchouc. Mais voilà, pour chaque produit, on a besoin aussi de penser à ses atouts. Et malheureusement, c'est pas toujours possible de tout trouver en France. Mais
vous y travaillez.
Et on y travaille.
Oui, vous pensez que ce sera possible d'ici quelques années.
On espère bientôt proposer un modèle 100% français, du fil à la semelle.
Du fil à la semelle, bon. Evelyne?
Oui, alors vous êtes 3 modèles très très différents sur le même sujet, peut-être pas avec le même niveau de maturité non plus, peut-être certains. Mais aujourd'hui, si on fait le point pour chacun, quels sont vos besoins en termes de financement? Ça roule tout seul? Est-ce que vous êtes enlevé? Est-ce que vous avez fait des levées? Comment? Là, vous en êtes où chacun d'entre vous?
Vous étiez incubé
Exactement, aujourd'hui on est incubé chez Look Forward, l'incubateur de chaumes privé. Et là, on commence à chercher des fonds parce qu'on en a besoin, on veut lever 500 000 euros. Pour le développement, pour le marketing, comme j'en ai parlé avant, pour structurer les équipes. On ne veut pas juste nous vivre avec une commission sur les achats et les ventes. On a besoin d'investir, de faire du cash burn pour pouvoir avancer et ne pas se limiter qu'à la France, parce qu'aujourd'hui, on touche plein de pays déjà. On n'a que 25% de notre trafic qui est en France. Donc, il y a...
Quels pays, essentiellement?
Nos pays voisins. Et l'Angleterre aussi, on a beaucoup les Américains qui sont là. Et donc voilà, on a besoin aussi d'aller parler à ces gens-là, de les toucher directement. Et pour ça, il nous faut les moyens, pour, parce qu'on ne peut pas tout faire à trois. Ouais, voilà.
Est-ce que justement, on consomme de la sneakers de manière différente en fonction du pays ou même de la région dans laquelle on vit? Est-ce qu'il y a des modes finalement de la sneakers, Romain?
Oui, il y a des modes.
Vous voyez la différence entre Aix-en-Provence, par exemple,
exactement.
Et Paris?
En fonction des services et des paniers moyens, on n'est pas sur les mêmes choses et on a tendance à plus utiliser nos baskets sur d'autres régions que parisiennes. Parisiennes, ça sera plus de nettoyage, plus de surface. Il n'y aura pas trop de travail de fond.
Est-ce qu'on consomme de plus en plus de la basket française, Mathilde? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui est en train de s'imposer dans le paysage? On se rend compte qu'il y a un vrai engouement pour le Made in France. Est-ce que vous aussi, vous le ressentez?
Oui, je le ressens. Bah oui, très fortement. Bah déjà, grâce à vous aussi, les médias qui parlaient beaucoup de ces sujets-là, qui nous donnent l'occasion, enfin, vous nous donnez l'occasion de nous mettre en lumière. Donc, merci pour ça. Et bien sûr, les gens, ils regardent vraiment derrière l'étiquette maintenant. Je pense que ça a commencé par l'alimentaire. Maintenant, ça se tourne vraiment sur le secteur textile et c'est une bonne chose.
Elisabeth, justement, des baskets à base de plastique recyclé française, là aussi, vous avez trouvé.
Il y en a plein. Vous avez Corail, des sneakers 100% vegan, c'est ce qu'ils disent, et recyclables, fabriqués à partir des bouteilles plastiques échouées dans nos mers et nos océans. Alors eux, donc Corail, ils ont récolté le plastique à Marseille, ils trient, ils lavent, ils broient tout ça dans leur région, et ensuite ils transforment les petits fragments de plastique en fil de polyester. Vous avez aussi Saola, S-A-O-L-A, basket à partir de plastique recyclé, entre 3 et 5 bouteilles en plastique recyclé, du coton bio pour les lacets, du liège et des algues nocives transformées en semelles après avoir été extraites des lacs qu'elles polluaient. Voilà, donc ça, ce sont les chaussures, les baskets Saola. C'est une jeune marque qui est basée à Chambéry.
Allez, en 30 secondes chacun, la suite c'est quoi, Mathilde? 2020, septembre, avec la nouvelle collection?
Tout à fait, ça va être une nouvelle collection, on va élargir encore la gamme avec de nouvelles couleurs. On va avoir un modèle qui propose de la laine française, locale, voilà, pour aider aussi à la filière de l'agriculture française, de la laine française. D'autres matières, sûrement, un autre modèle avec une forme plus basse. À base de lin, je pense.
À base de lin et de chanvre.
Hein, et de ça. Chanvre.
Maxime ?
La suite pour nous, c'est une application donc, qui devrait sortir dans les prochains jours, si ce n'est la semaine prochaine, je l'espère.
Ouais, on va suivre ça.
Et continuer voilà, notre développement, structurer nos équipes et renforcer notre cote officielle. Parce qu'aujourd'hui, on propose 7000 références, mais on sait qu'on peut en avoir beaucoup plus.
Romain, même question.
La suite des événements.
D'autres boutiques peut-être ?
D'autres boutiques à l'international, notamment au Japon, et un site internet qui permettrait aux clients d'envoyer leur paire directement pour proposer des services de nettoyage et de réparation.
Merci à tous les trois d'être venus nous parler de sneakers à l'occasion du Sneakers Summit, où je suppose que vous allez vous rendre évidemment le 25 et le 26 janvier, porte de la Villette à Paris. Il est 13h46.
Europe 1.
Nous, on reste ensemble. Ils existent depuis 1815. Les stores Roussel ont évidemment une grande tradition dans ce métier. On va la découvrir ensemble sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Roussel Store. Bonjour Guillaume Alphen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez Roussel Store aujourd'hui, une maison fondée en 1815 par Chenavard. Chenavard qui est au départ spécialiste dans l'ameublement d'intérieur.
Tout à fait. Alors merci de m'accueillir et merci d'accueillir un représentant de la vieille économie finalement. Oui. Et pour revenir à Monsieur Chenavard, il est spécialisé dans les tapis et dans les tissus peints. Et l'épiphanie est décrite un peu à la façon de l'histoire d'Archimède, Monsieur Chenavard devant une cheminée, contemplant un tissu peint, et il en conçoit immédiatement l'application de Store. Il avait dû être incommodé dans son travail par la lumière du soleil, et c'est comme ça que, selon l'histoire de Roussel Store, le Store aurait été créé.
C'est l'inventeur du store. En tout cas, c'est ce que disent les générations qui sont passées après lui. Les stores, à l'époque, ils servent à quoi ? Ils servent dans les carrosses, notamment.
Absolument. Ils servent aux fenêtres à se protéger de la lumière, de la chaleur aussi. Ils sont installés à l'intérieur. Mais à cette époque, on les voit beaucoup dans les applications carrosses.
Oui, on a des œuvres d'art d'ailleurs, hein, parce que c'est peint, il y a énormément de choses dessus. C'est beaucoup plus chargé finalement que les stores qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs comme tels qu'ils sont considérés. Ils vont rester longtemps, les stores de M. Chenavard et ceux de ses successeurs à Tremblay et Brieux, considérés comme des œuvres d'art.
Marque de luxe,
à tel point qu'on retrouve dans les traces d'un rapport en 1840 sur les expositions menées en Belgique par le rapporteur, un commentaire qui dit « L'industrie a beaucoup progressé, mais elle a perdu son talent et son côté artistique que M. Chenavard avait insufflé. »
Alors effectivement, Chenavard va passer la main, vous avez fait référence à Tremblay, Brieux et Fils, et puis la maison devient Roussel dans les années 20, en 1925, c'est bien ça ?
C'est ça, c'est à partir des années 20 que le nom de Roussel est associé au nom du store.
Camille Roussel, qui reprend la société,
à l'invitation de son cousin, rejoint la société au sortir de la guerre. C'est un ingénieur en électricité, se demande un peu quelle suite donner à sa carrière. Et le côté technique et le côté tissu qui est porté par sa femme l'incite à se lancer dans cette carrière du store auprès de son cousin. Et petit à petit, il montera au capital pour devenir maître à bord et transmettre la société aux générations suivantes.
Oui, parce que la société n'a plus jamais quitté le giron des Roussel.
Voilà, finalement, ça ne fait que 100 ans que Roussel Store est Roussel Store.
Roussel Store a évolué justement en 100 ans, beaucoup. Comment est-ce qu'on est passé du store ancien au store moderne ?
Alors le store moderne, il s'est développé naturellement avec les industriels qui ont beaucoup travaillé sur les produits, qui les ont allégés, qui ont amené des matières nouvelles et qui ont amené aussi beaucoup de technologies. Les stores sont désormais motorisés, ils sont même intégrés dans des environnements domotiques. Et la vraie finalement spécificité de Roussel Store, c'est d'avoir au contraire conservé un savoir-faire de fabrication à l'ancienne comme on les faisait il y a un peu plus de 100 ans maintenant.
Oui, on a par exemple avec nous une pièce ici hein, sur Europe1.fr. Comment est-ce que vous appelez cette pièce ?
Alors, c'est un coquetier.
D'accord.
On a tout un tas de noms poétiques pour les différentes pièces. On a le coquetier, on a la tête de cheval. Voilà.
Ce sont les pièces de métal hein, qui viennent enserrer les stores ?
Ce sont les pièces d'assemblage qui viennent effectivement consolider l'armature et la soutenir. Et celle que vous avez entre les mains, alors c'est pas évident pour nos auditeurs, mais elle est en laiton, en bronze.
Elle est très lourde, oui. On le sent effectivement quand on la prend à la main. Ce qui a changé peut-être, c'est qu'on a fait entrer la modernité dans les usines, c'est-à-dire qu'on n'a plus les moules, mais on est sur de l'impression 3D ?
Alors on a toujours les moules. Et pour ce qui nous concerne, on continue de faire ces pièces en fonderie avec des fondeurs. Tout un tas de vieux métiers qui sont associés au développement de ces stores. La modernité s'est installée dans le sens où le petit-fils de Camille Roussel, lui, a entrepris de numériser toutes ces pièces et elles sont effectivement conçues, on les fait évoluer en 3D sur les ordinateurs.
Notre coach, Evelyne Platnik-Cohen.
Oui, alors vous avez encore déniché une très très belle maison avec des très beaux produits. Clairement, moi l'impression que j'ai alors en tant que consommateur, c'est que le store redevient la mode liée entre autres aux problématiques de canicule et autres. Ça a dû avoir des moments de gloire, ça a dû un petit peu baisser dans les années 90. Et là, j'ai l'impression, enfin moi je vois autour de moi, que les gens y retournent un peu par obligation et qu'on voit qu'en effet les modèles se sont modernisés. Juste une toute petite remarque par rapport à votre site internet. J'ai trouvé qu'il y avait un gros travail marketing et communication en chantier à faire, peut-être beaucoup mieux. Là, on n'est même pas sur du responsive, donc on est sur un site, à mon avis, qui doit déjà dater d'il y a une dizaine d'années. Et je pense que vos produits, tels que vous les décrivez, tels qu'ils sont, mériteraient d'être encore plus mis en valeur du point de vue communication et marketing.
C'est vrai, on est des gens discrets et on a tendance à mettre notre énergie auprès de nos clients avant de la mettre dans la communication. Vous avez tout à fait raison et je dirais finalement que le site datant de 1815...
Oui, à peu près.
Voilà, il a peu évolué.
Mais je d'autant que vous avez des clients importants, on pense au Lutetia, on pense au Crayon, vous avez des clients à l'étranger et tout ça, c'est du Made in France.
C'est du Made in France et c'est beaucoup de bouche à oreille, c'est une notoriété sur notre petit sujet des stores.
Elisabeth,
question pratique. Qu'est-ce qui est plus tendance, les stores vénitiens ou les stores californiens? Alors, je crois que les vénitiens, c'est les stores horizontaux, c'est ça?
Les stores vénitiens, ce sont ceux qui sont à lamelles, qui nous arrivent de Venise, d'ailleurs, d'où ils tirent leur nom. Ils ont un regain d'intérêt aujourd'hui pour leur côté déco.
On en voit plus, oui.
Voilà.
Et les stores californiens, donc ce sont les stores
verticaux. Grandes bandes verticales. Qui, elles, sont plus destinées à créer des intimités, séparer des espaces et ce type de choses.
Et donc les deux se font.
Ouais, et je vous invite à aller découvrir l'histoire aussi du store, hein, parce que tout ça a commencé avec l'Égypte, c'est bien ça?
Absolument, 5000 ans auparavant, rendez-vous compte donc de la manière qu'on fait le plus vieux métier du monde.
Presque, presque. Mmh. C'est Rossel Store, merci beaucoup Guillaume Elfen d'être venu nous présenter cette très belle maison qui a commencé donc en 1815. Merci à Evelyne Platnik-Cohen qui était notre coach aujourd'hui, Elisabeth et Céline. On se dit à demain, midi sur Europe 1.
À demain, Raphaël Duchemin, c'était La France Bouge avec AXA Prévention, accompagnement des chefs d'entreprise, santé et sécurité des salariés. Retrouvez un dispositif de prévention gratuit sur le site axaprévention.fr. Et restez sur Europe 1, dans un instant, Christophe Ondelat vous raconte Francis Holm, le tueur sans mobile.